Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Louis. On a vu l'importance des phoques, des poissons et plus généralement de tout l'écosystème marin pour nous et pour notre planète. On a vu l'importance de la pêche pour notre économie, pour nos territoires et pour tout un tas d'individus extrêmement attachés à ce métier. Alors maintenant, la question qui reste, c'est comment trouver un juste équilibre entre les deux ? Comment parvenir à une pêche durable ?
La capture accidentelle des cétacés est une situation très préoccupante, qui demande une mobilisation collective. Aujourd'hui, j'ai présenté les 7 engagements de l'État, des pêcheurs et des scientifiques pour lutter contre ces captures.
Ça, c'est le message de la ministre de la Mer, Annick Girardin, publié sur Facebook en février 2021 au sujet des captures accidentelles de dauphins. Visiblement, le gouvernement souhaite montrer que le problème est pris au sérieux. Mais quand on regarde de plus près les fameux engagements que propose la ministre, on déchante un peu. L'essentiel se résume à recueillir des données, la ministre parle notamment de campagnes d'observation et de caméras à bord des bateaux, et puis poursuivre le développement de solutions techniques, comme les pingers, ces répulsifs acoustiques censés éloigner les dauphins des filets. En clair, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est ce qui inquiète Vincent Ridoux, chercheur à l'observatoire Pélagis.
À titre personnel, je pense que tous ces développements technologiques, enfin, il n'y a aucun de ces développements technologiques qui va fournir une solution pour l'hiver prochain. Aucun. Et même pas pour dans 5 ans, quoi. Donc, même s'il faut qu'il y ait des développements technologiques, ça ne doit pas nous empêcher de reconsidérer la gestion dans le temps et dans l'espace des engins qui sont à l'œuvre aujourd'hui et non pas ceux qui seront peut-être dans 10 ans, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut jouer sur tous ces tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des programmes de développement technologique sur certaines choses dont on n'a aucune idée de l'efficacité éventuelle, pour l'instant, qu'il faut s'arrêter de penser que les fermetures spatio-temporelles ou les remplacements spatio-temporels d'un métier par un autre sont la solution pour demain, quoi.
Les fermetures spatio-temporelles, en fait, ça veut dire arrêter la pêche sur certaines zones à certains moments de l'année. Ou alors, ce que propose Vincent Ridoux, ce sont les remplacements spatio-temporels. Plutôt que de tout stopper, on remplacerait à certaines périodes et dans certains endroits une technique de pêche qui entraîne beaucoup de captures accidentelles par une autre qui a beaucoup moins d'impact. Pour lui, la vraie solution, c'est donc d'adapter et de modifier les pratiques de pêche pour limiter les interactions entre les bateaux et les phoques ou les dauphins. Au fond, ce que dit Vincent Ridoux, c'est qu'il faut arrêter de se réfugier sans arrêt derrière une possible solution technologique. Non, il faut changer de paradigme. Il faut que l'on s'autorise, ou plutôt que l'on s'efforce, de modifier nos habitudes de pêche et que l'on commence à le faire dès maintenant si on veut avoir un vrai effet positif sur le problème des captures et plus généralement sur la préservation de l'écosystème marin. Ce principe vaut pour quasiment tous les problèmes liés au développement durable. L'autre jour, je lisais un article sur la voiture électrique. Bien sûr, c'est très bien, ça émet peu de gaz à effet de serre. Mais est-ce que c'est la solution pour passer à une mobilité durable ? Non. Déjà parce qu'en réalité, la voiture électrique aussi a un impact sur l'environnement, avec les batteries par exemple. Mais aussi parce que si on veut vraiment aller vers une mobilité durable, il faut repenser globalement notre façon de se déplacer, utiliser beaucoup plus les transports collectifs, développer les mobilités douces comme le vélo ou la marche, Bref, il faut accepter de changer profondément nos modes de vie et pas juste compter sur une solution technologique miracle qui n'en est pas une. Et bien, c'est pareil pour la pêche. La solution, ce ne sera pas des pingers magiques ou des filets qui ne prennent pas de dauphins. La solution, c'est remettre en question notre façon d'envisager et d'organiser l'activité de la pêche. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans À flot et à sang. Je crois que je suis arrivée. C'est l'îlot où il y a une sorte de petit carrousel, là ?
Oui, c'est celui-là qui a une barrière.
Ok, bah, je me suis garée, là, et
bien.
Je vais aller vers les bateaux, du coup.
Ah oui.
J'arrive.
Ok, super.
Cette heure-là de la journée, c'est très bien.
Alors, je m'appelle Marc Oufret.
Votre bateau, c'est Artemis, c'est ça ?
Ouais.
J'ai 53 ans, ça fait 16 ans. 16 ans que je fais ce métier. Avant, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Après, j'ai été commercial pendant 7-8 ans. Et puis je suis venu à la pêche parce que j'étais passionné de pêche. Ouais.
Faites attention, pas glisser.
Ouais.
Vous avez des choses à mettre à l'intérieur.
J'ai embarqué toute une matinée avec Marc Oufret, un petit pêcheur à la ligne basé à Port-la-Forêt, un tout petit port à une dizaine de kilomètres au nord de Concarneau. Souvent, on considère que les pêcheurs ligneurs sont ceux qui ont le moins d'impact sur la ressource, parce qu'ils pêchent poisson par poisson et ne font pas beaucoup de volume. Après, encore une fois, attention, il n'y a pas vraiment une pêche plus vertueuse qu'une autre. Chaque technique, chaque engin a ses propres défauts et son propre impact sur le milieu marin. Même à la ligne, ou à la palangre, comme on l'appelle aussi, il peut y avoir des prises accidentelles. Par exemple, des oiseaux qui viennent chasser, qui voient le poisson pris dans l'hameçon, plongent pour le récupérer, se font à leur tour accrocher le bec et finissent par mourir noyés.
Je pars vers 7h, quoi, jusqu'à mes premières lignes, il fait nuit encore.
Néanmoins, ce que je trouve intéressant chez Marc, c'est surtout sa démarche. Consciente et volontaire. Il a fait le choix délibéré de pêcher moins et de pêcher mieux, seul, sur son petit bateau, au moyen d'une méthode plus sélective et moins invasive que d'autres.
C'est déjà un choix de pêche par passion. Déjà, la ligne, c'est ça. Et après, forcément, quand on rentre complètement dans le métier, les valeurs, elles sont tout autour, donc on les prend ou on les prend pas, mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des dégâts plus que ça. C'est pas que j'ai ma conscience tranquille, comme je dis, mais parce que je tue quand même du poisson, donc j'ai un impact sur la, voilà, sur le global, on va dire, sur la chaîne alimentaire, mais alors des fois ça me dérange, des fois ça m'énerve un peu, je me dis, oh, pas bien, ouais. Des fois, on se dit, parce que des fois qu'on pêche beaucoup, on se dit, est-ce que c'est raisonnable tout ça, quoi. Puis bon, bah, y a des jours où on pêche moins ou on pêche rien, des fois, donc ça compense aussi. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, oh, quand même, tu tues, quoi. Tu tues du poisson, quoi. Du poisson, mais tu tues. Après, nous, on nous prend pour des moitiés des terroristes, nous, les minières ou des je sais pas quoi, parce qu'en fait. On a notre façon de penser très, pas écolo, mais très plus, beaucoup plus vertueuse que les autres. Donc ça dérange aussi.
Il y a du soleil là.
Ah.
Ouais, c'est une pêche particulière aussi, hein. C'est pas... Moi, je sélectionne ce que je pêche quand même. Vous voyez, celui-là, il est tout petit, là, il va repartir. Il saigne pas, il est bien. Hop là. Celui-là, je vais le repêcher dans 3-4 ans, quoi, quand il sera plus gros, quoi. C'est pour ça que j'ai fait la ligne aussi, c'est pour pouvoir faire ça. Pour lâcher du poisson qui est trop jeune, quoi. Après, bon, je vais pas me battre avec les autres métiers de la pêche qui font différemment. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est mon fonctionnement, ça.
C'est une autre conception, quand même,
ouais,
de la pêche.
C'est se dire que on n'est pas obligé de tout pêcher, quoi. Tout simplement. Tous ceux qui font la ligne, généralement, pensent un peu comme ça. Ça fait partie un peu du métier, du concept, un peu. Après, non, il y en a qui pensent pas comme moi, non, c'est sûr. Il y en a, il faut tout bouffer, on verra bien après, quoi. On s'en fout un peu de ce qui restera pour les autres, quoi. Je trouve que c'est une logique un peu dépassée, moi, j'ai. Alors, j'ai rien d'écolo, hein, parce que, je pêche du poisson. Je produis rien, hein, je ramasse, moi. Hein. Je suis pas un agriculteur, quoi. C'est ma production, mais c'est une production de prélèvement. Hein. C'est pas autre chose, donc, faut quand même un petit peu relativiser tout ce qu'on fait, quoi. Bon, en 2 mois, je fais un arrêt biologique quand le poisson se reproduit. Je suis pas comme les pélagiques qui bouffent les 3/4 du quota annuel français sur les frayères, quoi, sur du poisson qui va finir en farine en plus, quoi. Et en plus, ils pêchent des dauphins, donc ça crée un gros souci, quoi. Bon, après, voilà. Hein.
Et juste sur cette histoire des phoques et des dauphins, etc., vous, en tant que pêcheur, vous en voyez de plus en plus dans la région ?
Ah oui. C'est assez terrible. Après, ça fait partie de la biodiversité, on va dire. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant des fois. Ça m'est arrivé d'en pêcher. Ils étaient juste pris par le bord, mais...
Pêcher quoi ?
Des phoques. Bon, ils étaient vivants, hein, mais...
Ouais, même à la ligne.
Ouais. Et les endroits où je vais pas, parce que il y en a trop. Ils bouffent plus de poissons. Il reste même... À peine la tête, d'ailleurs. Donc, les endroits, je vais pas. S'ils sont là et qu'ils me bouffent mon poisson, je vais plus là. Il y a plein d'endroits pour pêcher, donc... je préfère changer de zone, quoi. Parce que, de toute façon, les phoques, ils bougent beaucoup. Donc, à un moment, ils vont plus être là où je travaillais. Et du coup, je vais retourner voir. Après, s'ils sont là, je trouverai une autre zone. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ça me dérange pas trop, moi, ça. Non. Enfin, les phoques me dérangent pas trop. Ouais, on va pas tuer tout le monde pour gagner sa côte, quoi. C'est pas top, hein. Et ça, je savais déjà.
Marco Fret fait partie de l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Il pêche essentiellement le bar, une espèce noble et très recherchée. Il vit très bien de son métier, notamment depuis qu'il vend aussi du poisson ikejime. L'ikejime, c'est une méthode ancestrale japonaise qui consiste à tuer le poisson en lui enfilant une aiguille dans la moelle épinière. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais ça permet de stopper net son système nerveux plutôt que de le laisser dépérir en s'asphyxiant hors de l'eau. C'est une technique de plus en plus convoitée car les chairs du poisson se conservent beaucoup mieux et sont bien plus goûtues. D'ailleurs, Marc a pas mal de restos gastro parmi ses clients. Pour vous donner une idée, un bar de ligne se vend à peu près 20-25 euros le kilo. Un bar ikejime, entre 35 et 40 euros le kilo. Donc on passe presque du simple au double.
C'est combien de kilos celui-là ?
Je sais pas, 2 kilos, ouais, un peu plus de 2 kilos.
Le plus gros que vous ayez pêché, c'était combien ?
7,2 kg. Il y a longtemps avant. Hein. Avant, on pêchait plein de gros. Hein. Il y a moins, c'est tout. C'est un poisson qui a la croissance lente. Du coup, un poisson de 5 kg, il a 20 ans, quoi. Ah oui. Donc, c'est vrai qu'il faut comprendre que si on tape dedans, comme on fait... comme certains font sur du juvénile ou sur des quantités astronomiques, oui. on va dans le mur, mais ça fait 15 ans qu'on le dit, mais personne ne nous écoute parce que ça intéresse pas les instances professionnelles, puisque c'est eux qui bouffent tout le quota. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait... Enfin, au niveau de la biodiversité, qu'on arrive à faire quelque chose de plus propre, quoi, c'est tout.
Moi, je pourrais pas. La grosse pêche, c'est pas comme ça que je vois le métier. Donc, après, le casier, l'hameçon, c'est quand même des techniques de pêche hyper douces et sélectives. Ce qu'on n'a pas besoin, en général, on rentre pas dans les casiers, ou si ça rentre, on le remet à l'eau vivant. Donc, il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas de pêche accessoire. Bon, c'est un autre métier, quoi.
John Castric est lui aussi un pêcheur ligneur. Il pêche le bar, mais également le homard, au casier. Je l'ai rencontré au Guilvinec, mais son bateau est basé à Loctudy, pas très loin. J'ai retrouvé chez lui le même esprit rebelle que Marco Frette. Tout du moins, la même conception du métier de pêcheur. Je trouve ça assez rassurant d'ailleurs, de constater qu'il existe des méthodes et des visions de la pêche qui s'emparent clairement de la question de la sélectivité et de la protection de la ressource. Je dis pas que c'est la solution et que tous les pêcheurs devraient pêcher à la ligne, mais ça montre quand même que des alternatives sont possibles et surtout que certains pêcheurs se donnent la possibilité de faire des choix, conscients et engagés, quant à la manière dont ils souhaitent exercer leur métier.
C'est quoi ta vision de la pêche, du coup ?
C'est de prendre ce que tu as besoin sans faire d'impact néfaste sur le reste. Mais après, je tape pas forcément tout le temps sur la grosse pêche, parce que s'il y avait que de la petite pêche, bah, y aurait pas assez de place sur la bande côtière. Donc, je pense que l'un nourrit l'autre aussi, parce que s'il y avait pas la grosse pêche, il y aurait pas les grosses infrastructures qui nous permettent de vendre en criée ou des choses comme ça. Donc, on est tous complémentaires. Et enfin, moi, je veux pas rentrer dans le débat. Pour moi, les gros pêcheurs, ils sont pas tous mauvais. La pêche artisanale, de façon générale, à partir du moment où t'es le patron, mais t'es aussi en mer, là, on est ensemble, quoi. On fait pas les mêmes métiers, mais on a la même vision du métier.
Pour toi, c'est quoi être respectueux du poisson, de la ressource, du métier de pêcheur ? C'est quoi faire ton métier de manière responsable ?
Bah, c'est essayer de prélever ce dont j'ai besoin. Ce que j'ai pas besoin, bah, je peux le remettre à l'eau vivant. Et de pas être toujours la course à toujours vouloir pêcher plus. Et c'est en fait, il est là le petit détail qui peut faire basculer n'importe qui, entre guillemets, du côté obscur de la force. Parce que même un petit pêcheur, il sort d'une démarche responsable et raisonnée à partir du moment où c'est la course à toujours vouloir gagner plus. Et ça, bah, y a deux choses qui rendent bête, c'est l'argent et le pouvoir. J'ai toujours dit à mon père ou même à ma femme, le jour où je deviens vraiment trop con et que je parle d'argent au lieu de parler de pêche, c'est que je serais allé trop loin. Donc là, il faudra que je passe à autre chose. C'est pas l'argent qui est important. Mon métier m'a vachement modifié ma façon de voir les choses. Après, d'avoir eu des enfants aussi, ça te donne un peu plus de perspective aussi, parce que bah, derrière, tu penses pas que à toi, il faut que tu penses à l'avenir de tes enfants. Et c'est vrai que bah, j'ai envie qu'ils découvrent ce que nous, on a pu découvrir quand on était petits. Parce que je te promets que quand t'es en mer et que t'as les dauphins qui te suivent, je connais pas beaucoup de marins que ça touche pas. Tu vois, c'est des moments assez intenses. Ben, moi, ça fait 11 ans que je fais ce métier et à chaque fois que j'en vois, ben, j'ai l'impression d'avoir 8 ans, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on préserve tout ça et on a notre responsabilité. Mais on l'a tous, notre responsabilité par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'on habite en ville qu'il faut pas se sentir responsable de ce qui se passe sur l'eau. C'est la responsabilité de chacun.
J'avoue que j'ai un peu tiqué sur la phrase de John Castric. C'est pas parce qu'on habite en ville qu'il ne faut pas se sentir responsable de ce qui se passe sur l'eau. Je me suis sentie tout de suite visée, en fait. Enfin, plutôt concernée. Parce que certes, je pêche rarement du poisson, mais j'en consomme de temps en temps, et avec grand plaisir. Donc forcément, en tant que consommatrice et consommateur, vous et moi avons une part de responsabilité sur ce qui se passe avant que le poisson n'arrive dans nos assiettes. On l'a vu dans les rapports de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la consommation mondiale de poissons par habitant a triplé depuis les années 50. Évidemment, les 21 kilos de poissons par habitant par an, c'est une moyenne mondiale. Les habitants des pays en développement en mangent beaucoup moins que nous. En France, on est à 34 kilos de poissons ingérés par personne chaque année. C'est beaucoup moins que notre consommation de viande, qui se situe autour de 85 kilos par an par Français, mais c'est toujours trop par rapport à la ressource disponible. Selon WWF, en 2019, l'Union européenne avait atteint son jour de dépendance du poisson le 4 juillet. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, l'UE a déjà consommé toutes les ressources en poissons des océans alentours, qui peuvent théoriquement se renouveler en une année. Passé le 4 juillet, le poisson que l'on consomme est donc soit importé, soit surpêché. Ce constat rejoint ce que m'expliquait Natacha de l'association Sea Shepherd. Elle me disait que l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, recommande de manger du poisson 2 fois par semaine. Mais selon Sea Shepherd, cette recommandation n'est pas tenable. Appliquée à l'échelle de l'humanité, cela correspondrait à 2 fois ce que les océans peuvent produire en un an. Or, si la pression de la pêche est si forte et si dangereuse pour l'environnement, c'est avant tout parce qu'elle vient satisfaire une demande trop élevée et qui ne cesse d'augmenter.
Et les gens, ils veulent la facilité, ils veulent un filet de poisson qu'ils mettent dans la poêle. Ils ne veulent pas même un filet de poisson déjà cuit avec le riz à côté, quoi.
Lui, c'est Manu Garek, le mareyeur que j'ai rencontré à l'Octudie. Pour lui, le problème vient avant tout des consommateurs. Ils ne veulent pas se poser trop de questions. Ils veulent manger du poisson facilement et à petit prix. Manu Garek me raconte que pendant le premier confinement de mars 2020, son activité de panier de poisson pour les particuliers a bondi. Chaque semaine, il proposait à ses clients une sélection de poissons fraîchement pêchés du coin, et ça a super bien marché. Il vendait jusqu'à 600 paniers par semaine. Mais cet engouement pour le produit local et de saison n'a pas duré, et les clients sont repartis vers leurs canaux d'achat habituels, c'est-à-dire principalement les grandes surfaces.
Tout le monde a fait son beurre, hein, on ne va pas cracher dans la soupe. Moi, ça a quasiment compensé ce que j'ai perdu avec ma clientèle professionnelle. Mais en l'occurrence, on n'a pas retrouvé ça après, quoi. Ça n'a pas continué. Donc c'est vrai que ce serait hypocrite en fait, de dire voilà, il faut que le consommateur change. Non, ce qui intéresse le consommateur, c'est son portefeuille. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Pour qu'on puisse changer ça du jour au lendemain, il faut qu'on arrête volontairement certaines choses. Et ça, c'est politique, mais il faut que les clients, les gens, décident d'arrêter ces choses-là. Donc, je pense que la démarche, elle doit venir du consommateur. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de sain et de durable, il faut que les gens fassent le choix de manger quelque chose de sain et de durable. Une relation avec son alimentation et avec le respect qui vient avec. Mais c'est à la personne qui mange de prendre la décision. Et derrière, il y aura les conséquences qu'il faut. C'est pas interdire aux producteurs, quel qu'il soit, que ce soit un pêcheur, un paysan, de stopper des pratiques, c'est aux gens d'arrêter. Si vous voulez, si les gens ne veulent plus manger de produits issus de l'agriculture dite conventionnelle, ils n'ont qu'à pas en acheter. Et on n'en produira plus. Et comme on n'en produira plus, on aura aboli le glyphosate.
Juste pour vous donner une idée de la situation. Aujourd'hui, en France, près des 3/4 du poisson que l'on consomme est importé. Pourquoi ? Parce que les poissons que l'on mange le plus ne sont pas ceux qui sont ciblés par nos bateaux. Nous, en France, on mange principalement du saumon d'élevage, de la crevette, du thon et du cabillaud. C'est pas du tout ce que pêchent nos marins. Eux, ils pêchent plutôt la baudroie, qu'on appelle aussi la lotte, la sardine ou encore le merlu. Donc déjà, on mange pas local. Et non seulement on mange pas local, mais en plus, on manque cruellement d'originalité parce qu'on mange toujours les mêmes poissons. Dans une enquête publiée en 2018, l'UFC Que Choisir montre que 90% du total du poisson frais acheté par les Français se répartit sur une quinzaine d'espèces seulement. alors qu'il en existe des dizaines et des dizaines. Selon le rapport, cette concentration de la consommation a pour effet d'accroître la demande et donc la pression de pêche sur ces espèces. En gros, comme on mange tous un peu la même chose, on va aussi pêcher tous la même chose, et donc ces poissons, particulièrement ciblés, vont subir une pression énorme. Donc en plus de manger local, il faudrait diversifier notre consommation. Alors certes, on pourrait mieux sélectionner le poisson qu'on achète pour s'assurer qu'il est local, de saison, pêché durablement. Mais encore faut-il avoir les moyens de faire ce choix. Ça demande du temps, souvent de l'argent, mais aussi tout simplement d'avoir accès à cette information. Par exemple, dans mon cas, c'est vrai que autant j'essaie de consommer bio et local pour tout ce qui est fruits et légumes, autant pour le poisson, je me suis jamais vraiment posé la question.
Ouais, bah mettez-moi deux macros, s'il vous plaît.
Quand je vais à la poissonnerie, c'est à peine si je lis les étiquettes. Du coup, pendant mon enquête, j'ai commencé à faire attention.
Non, on va laisser la tête, mais vous pouvez juste les vider par contre. Ouais.
Je suis allée voir plusieurs poissonneries, j'ai observé les étals.
Donc là, on a du dos de cabillaud.
J'ai cherché la provenance des produits.
Technique de pêche chalut.
J'ai regardé s'il y avait des labels.
Et pêché en Atlantique Nord-Est.
Et en fait, c'est assez terrible, mais j'ai vite constaté qu'il y avait un vide énorme dans ce domaine.
Et c'est grand comme zone. Et du coup, il n'y a pas plus précis que ça.
Sur les dos de cabillaud ?
Mais c'est énorme, en fait, là, je vois sur votre schéma.
Oui, ça, c'est tellement vaste qu'ils ne mettent pas de zone précise, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ils mettent juste...
Ouais, par exemple, là, c'est de l'élevage, mais c'est de l'élevage français. Ça, c'est en France.
D'accord.
Donc ça, c'est précisé, en fait, sur l'emballage.
Ah, ok.
Mais il y a des emballages où, voilà, ça va être que comme ça, qu'avec Lot, pêcher en Atlantique Nord-Est et la technique de pêche. Ça, c'est une pêche française.
Alors là, qu'est-ce qui a marqué ?
Alors, pêche artisanale de Bretagne.
Ok. Oui, poisson sauvage de qualité extra, une charte pour un engagement qualité et le respect de la ressource. Ok.
Oui, là, y a, tout est marqué, il y a même le coin de la carte.
Et il n'y a pas des clients qui vous demandent d'être plus de précision, ouais, si.
Ouais.
Et du coup, tu me dis, ça vaudrait pas le coup de l'inscrire directement dans les étiquettes ? Ouais, ça marche, merci beaucoup en tout cas. Très bonne journée, au revoir.
Je me rappelle de ma discussion avec Pierre, le pêcheur de langoustines basé au Guil, qu'on entend dans le deuxième épisode. Quand on s'est assis dans son camion, la toute première question que je lui ai posée, c'était « Selon toi, quel est le plus gros problème de la pêche aujourd'hui ?»
La non-transparence, parce que la fameuse étiquette sur... je ne sais pas d'où tu es, mais
Paris.
Bon, voilà, exemple Paris. Tu vas dans une poissonnerie à Paris. N'importe qui va trouver... il a besoin des huîtres, il a besoin des bigorneaux, il a besoin... Peu importe la chose. On va marquer dessus Atlantique Nord-Est. C'est très vaste. Et puis ça ne veut rien dire. On te dirait produit au Guilvinec. Tu sais que ça va profiter... au bateau du Guilvinec, ou des Sables d'Olonne, ou d'Arcachon, ou de Dieppe, n'importe quoi. Mais c'est un truc qui est vachement large, qui englobe beaucoup de choses.
En théorie, selon la réglementation européenne, pour chaque poisson vendu, l'étiquette doit mentionner le nom usuel de l'espèce, par exemple maquereau, son nom scientifique, dans le cas du maquereau c'est Scomber scombrus, la méthode de production, c'est-à-dire si le poisson est issu de la mer ou bien s'il provient d'un élevage. Du coup, on lira par exemple « pêché en » ou alors « élevé en ». La zone maritime où le poisson a été pêché, par exemple « mer celtique ». Et la technique de pêche, par exemple « chalut ». Or, l'enquête de l'UFC Que Choisir montre que dans un quart des rayons poissonnerie, déjà les étiquettes s'avèrent illisibles. L'enquête montre aussi que pour un poisson sur quatre, les méthodes de pêche ne sont pas indiquées. Pour près d'un poisson sur dix, c'est carrément la zone de capture qui n'est pas affichée. Et quand elle l'est, cela correspond à des zones trop vagues, comme le disait Pierre. Au final, avec tous les problèmes relevés, l'enquête conclut que deux poissons sur trois ont une mention d'étiquetage manquante, fantaisiste ou trop vague.
On pourrait mettre, pour chez vous, à Paris, la langoustine GV. Bon, langoustine GV, clair. Elle est pêchée à GV.
GV pour Guilvinec.
Pour Guilvinec. Le mec qui veut en acheter, ou l'Orient, ou la Turballe, ou peu importe. C'est ce que je veux dire, c'est que l'appellation Atlantique Nord-Est est tellement lâche que la personne a l'impression d'acheter du « Ah, super, bleu, blanc, rouge, français ». C'est peut-être pas le cas. C'est ça qui fausse un peu la donne, quoi.
Ce que pointe aussi l'enquête de l'UFC Que Choisir, c'est qu'en plus d'être illisible ou incomplète, les infos données sur les étiquettes ne permettent pas de savoir si le poisson est pêché de manière durable ou non. Alors oui, il y a bien quelques labels, dont le but est précisément de garantir un produit issu d'une pêche durable. Le plus connu, c'est le label MSC, pour Marine Stewardship Council. Vous savez, c'est l'étiquette bleue qu'on voit un peu partout sur les étals, y compris pour les produits congelés. Mais récemment, le label a fait l'objet de nombreuses critiques. L'association Bloom, notamment, dévouée à la protection des océans, a épluché avec l'aide de chercheurs des centaines de rapports d'évaluation de pêcheries certifiés par le MSC entre 2009 et 2017. Résultat, près de 84% des poissons MSC proviennent de la grande pêche industrielle, c'est-à-dire des bateaux de plus de 12 mètres, avec des techniques de pêche souvent moins sélectives que la petite pêche côtière. Après, encore une fois, il ne faut pas simplifier les choses. Il n'est pas juste d'affirmer que les bateaux de moins de 12 mètres sont les plus exemplaires et que les plus gros sont les plus nuisibles. Pourtant, le MSC lui-même joue sur cette image. Quand on analyse les photos utilisées pour promouvoir ces produits, ce qu'a fait l'association Bloom, on voit que près de la moitié de ces outils de com montrent des petits navires artisans. Ça veut bien dire qu'ils vendent un produit associé à une certaine image de la pêche qui ne correspond pas à la réalité. En 2019, les Français ont acheté au total pour l'équivalent de 7,5 milliards de poissons, tous produits de la mer confondus, surgelés, frais, crustacés, conserves, etc. Ça, c'est la consommation des ménages dans leur foyer. À cela, il faut ajouter le secteur de la restauration, qui a acheté pour presque 2 milliards de produits de la mer. Car oui, les restaurants, quand ils sont ouverts, sont un autre lieu très important de consommation du poisson, qu'il faut donc prendre en compte si l'on veut changer l'ensemble de nos habitudes.
Bonjour. Oui.
Pour évoquer tout ça, j'ai rencontré Xavier Hamon, chef cuisinier.
C'est beau comme endroit.
Sans surprise, on s'est donné rendez-vous dans un restaurant, à Quimper. Il m'explique comment la restauration a elle aussi un rôle à jouer dans la façon dont on doit modifier notre consommation de poissons. Il faut changer notre rapport aux produits de la mer et, de manière plus générale, notre rapport à l'alimentation. C'est un sujet que Xavier Hamon connaît bien, car il est aussi fondateur de l'alliance Slow Food des cuisiniers.
Alors, Slow Food, ce n'est pas forcément un concept, c'est plutôt une ligne de conduite, une philosophie qui est née dans les années 80, dans le nord de l'Italie, à la suite de l'apparition des premiers fast-food à Rome ou comme à Milan. Et une bande de militants issus du journalisme, mais aussi des luttes antifascistes, avec un fort ancrage territorial et local, a très vite vu la menace de cette standardisation de l'alimentation, de cette accélération des modes de vie. Et dans les années 80, déjà, ils ont voulu marquer les esprits en créant un manifeste. Ce manifeste, il revendique quelque chose qui est fondamental dans le mouvement Slow Foods et dans la philosophie, c'est la capacité à jouir de tous les plaisirs de la vie. Avant même de parler d'alimentation, c'est cette liberté. Donc en fait, la philosophie de Slow Food, c'est une vision de la société qui montre bien que ce qu'on nous vend depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas simplement de l'économie, c'est aussi un profond changement, profonde reprise en main de nos modes de vie et de nos libertés fondamentales. Donc d'abord, Slow Food milite pour une reprise citoyenne en main de nos libertés fondamentales et ensuite s'est attaqué à ce que ça voulait dire symboliquement sur l'alimentation et a développé des tas de campagnes pour démontrer que l'industrialisation de l'alimentation est une perte culturelle et économique aussi, puisqu'on appauvrit des territoires pour enrichir d'autres intérêts. C'est une perte de goût, c'est une perte évidemment de biodiversité et une atteinte grave à l'environnement, ça tout le monde le sait maintenant, mais cette vision-là elle date des années 80.
En fait, c'est assez simple. Ce que défend et promeut Xavier Hamon, c'est rien de moins qu'une meilleure alimentation, chez soi comme au restaurant. Mais meilleure dans tous les sens du terme, Ça veut dire manger local, manger de saison et manger durable. Pour lui, les labels sont insuffisants. Ce qu'il veut, c'est changer profondément les pratiques de production et de consommation.
Pour moi, les labels ne signifient pas grand-chose. Parce que derrière un label, on sait rarement ce qu'il y a. Et c'est le cas des MSC, effectivement, qui s'est affiché comme le label éco-responsable, et qu'on a commencé à gratter un petit peu, on a bien vu qu'en fait, ça ne favorisait que la grosse pêche, et que c'est un label qui n'interrogeait qu'une petite partie de la pratique. Tout comme un label bio, qui existe pour les produits de l'aquaculture, ou pour les produits marins, pour les huîtres notamment, ce qui est un non-sens.
Est-ce que c'est une huître bio ?
Ben justement, je ne sais pas, mais pourtant elle est labellisée. Enfin, m'expliquer ce qui différencie un bassin d'un autre sur une même rivière. D'un côté, il serait bio et l'autre pas bio en fonction du courant, je ne sais pas. En tout cas, c'est très tendancieux tout ça et ça explique bien le leurre de l'amélioration des pratiques par les labels. Prenez Slow Food. Slow Food peut étiqueter certains produits, par exemple, parce qu'ils ont un lien avec le territoire, une histoire, une tradition, des modes de production. Ça interroge rarement la capacité de rémunération d'un paysan et de l'économie sur un territoire. Très, très rarement. Ben voilà, pour moi, c'est pas suffisant.
Quand j'entends Xavier Hamon parler de la nécessité d'intégrer toutes ces dimensions dans notre raisonnement, je repense encore une fois à la notion de développement durable et à ses trois piliers. Proposer des moules bio, par exemple, ça suffit pas pour parler de pêche durable. À quel prix sont-elles vendues ? Comment travaille le producteur ? Est-il suffisamment rémunéré pour son travail ? C'est tout ça qui compte en réalité et qui va faire qu'on se dirige réellement vers un modèle soutenable pour tous. Une fois qu'on a ça en tête, ce que propose Xavier Hamon, c'est ce qu'il appelle une cuisine de l'offre.
L'offre, c'est-à-dire qu'on cuisine à partir de ce qui existe sur le territoire. Donc ça veut dire qu'on abandonne complètement les cartes figées et qu'on est obligé de s'adapter au quotidien. Et qu'une production, on est obligé aussi de travailler avec les aléas de production des producteurs avec lesquels on a choisi de travailler. Ça veut dire les saisons, ça veut dire les saisons de pêche, ça veut dire aussi faire avec la ressource disponible. La cuisine de l'offre, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est d'abord la production locale qui a été choisie, et ces choix engagés m'amènent à ne pas choisir ce qu'il y a dans mon assiette. Par contre, d'utiliser tout mon savoir de cuisinier pour au quotidien m'adapter en permanence. Donc ça veut dire aussi que par rapport au client qui vient chez moi, c'est évident que lui aussi doit s'adapter. Et pendant longtemps encore, on nous a vendu l'idée qu'il fallait répondre à la demande. La demande du client n'existe pas, elle est fabriquée. Elle est marketée, elle est orchestrée, mais elle n'existe pas en soi.
Contrairement à ce que disait le marailleur de l'Octudi, Manu Garek, pour qui le changement doit partir de la demande du consommateur, pour Xavier Hamon, cette demande n'existe pas. Le client mangera ce qu'on lui donnera à manger. Et si on l'habitue à des bons produits, il exigera systématiquement cette qualité. Le problème, c'est que cette qualité n'est pas au rendez-vous pour le moment. On l'a vu, les produits de la mer que l'on nous propose sont le plus souvent des produits très peu diversifiés, souvent pas locaux et souvent transformés.
Donc moi, la première question que je me pose, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres poissons qui sont disponibles ? Et évidemment, oui. Et pour ça, c'est comme pour les autres aspects. Il faut remettre des bottes, aller sur le port, aller à la criée, aller voir le marailleur, aller voir les pêcheurs et regarder ce qui se pêche, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Et il se trouve que très rapidement, on tombe sur des espèces abondantes, bon marché, qu'on a sur une saisonnalité plus longue que les autres espèces plus nobles. Là, je suis en train de parler de quoi, très concrètement ? Des espèces qu'on a ici localement, c'est du chinchard, c'est du taco, c'est du rondin perlon, c'est du maquereau, c'est des sardines en saison, c'est du lieu noir. Le lieu noir a mauvaise réputation, mais parce qu'on ne le connaît pas. La standardisation des boissons a amené à une perte de savoir-faire et de connaissances sur tous ces produits-là.
Comment est-ce que vous faites pour sélectionner les pêcheurs, les marailleurs, les producteurs avec qui vous allez travailler et qui ont une production durable, une pêche durable en l'occurrence si on parle de la pêche ?
Je fais un truc de fou, je sors de ma cuisine. Donc ça paraît tout con, mais on a coupé tous les liens entre les métiers. Dans les filières. Les métiers ne se connaissent plus, les gens ne se connaissent plus, ils ne se parlent plus. Et du coup, ils n'ont aucune conscience de ce que les uns et les autres vivent. Donc le principal travail pour pouvoir prendre conscience de tout ça, c'est d'aller à la rencontre des gens.
En fait, ce que dit Xavier Hamon, c'est qu'il faut se réapproprier les produits de la mer. Tous les produits de la mer. Il faut diversifier notre consommation pour manger des espèces oubliées qui n'en sont pas moins goûteuses et qui ont l'avantage d'être locales. Il faut reprendre contact avec les producteurs pour comprendre d'où vient le produit et comment il a été pêché. Il faut apprendre à sortir du schéma dont parlait Manu Garek. Je rentre du boulot, je suis fatiguée, je me sors deux pavés de saumon congelé et c'est terminé. Bien sûr, c'est facile à dire. Difficile de quitter son confort ou de changer ses habitudes quand on a d'autres priorités. Je pense notamment aux personnes précaires, âgées, en situation de handicap, ou alors aux familles nombreuses. C'est compliqué de leur dire « Réfléchissez avant d'acheter de la merde, prenez le temps de choisir vos produits ». Non, bien sûr, ça marche pas comme ça. C'est évident qu'il faut aussi donner les moyens aux gens de pouvoir faire ces choix.
On n'a pas les moyens de bien manger aujourd'hui. Quand bien même on le voudrait. Les circuits de distribution sont encore cantonnés soit à la grande surface, soit aux petits magasins de producteurs. Et là encore, qui a la chance d'avoir à proximité un magasin de producteurs, une épicerie locale, à part les métropoles ou dans des zones rurales où il y a encore une certaine densité de population? Mais en banlieue, je vous garantis que faire à manger à Gennevilliers pour trouver des produits locaux de saison, faut se lever de bonne heure, quand bien même on aurait envie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que oui, heureusement, les consciences ont complètement évolué. Je pense que la bataille de l'opinion, elle est gagnée. Mais les outils de production, eux, qui nous permettraient d'assumer tout ça en consommant au quotidien différemment, ils n'ont absolument pas changé. Ce qui manque, c'est des pêcheurs qui partent au quotidien pour pêcher non pas du bar de ligne, mais encore une fois, du taco, du chinchard, du grondin, qui vont pouvoir aller sur les tables de tous les jours, pas les tables d'exception. Parce que derrière l'histoire du bien manger, vous avez bien compris qu'on défend aussi une certaine vision du travail, digne, de qualité, avec des qualifications, avec des savoir-faire, avec un lien au territoire, avec un lien avec les gens, et avec une fierté du travail bien fait.
Peut-être que la bataille de l'opinion est gagnée, comme dit Xavier Hamon. Mais il nous manque les outils pour que, de l'idée, on passe enfin à la pratique. La pêche durable, le bien manger, ces questions essentielles à notre avenir sont de l'ordre de la responsabilité collective. C'est aux politiques de s'en emparer.
Dernière question pour conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce problème des captures accidentelles, vous êtes confiant dans l'avenir? Vous êtes inquiet? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez sur les prochaines années à venir, quoi? Comment vous voyez les choses?
Je ne vois pas bien les choses, en fait. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais en tout cas, on peut voir ce qui s'est passé dans les dernières années. Et depuis qu'on s'intéresse à cette question ici, on voit que c'est une question qui a connu des hauts et des bas politique. Donc elle a été d'actualité à certains moments, de manière assez cruciale, au début des années 90, au milieu des années 2000, à nouveau maintenant, et que dans toute cette période, il n'y a eu aucune décision politique prise au niveau national qui avait pour effet de délibérément réduire les captures accidentelles. Il y a eu une seule décision qui était au niveau européen sur l'arrêt des filets maillons dérivants, qui est le résultat des études faites en début des années 90 et qui a été mise en œuvre au début des années 2000. Et puis, c'est tout. Et donc, sur le sujet qui concerne les captures accidentelles associées aux échouages qu'on observe ici, donc un sujet qui existe depuis la fin des années 80, jusqu'à maintenant, à peu près rien. Si ce n'est discuter, tester des choses, mais prendre des décisions opérationnelles, il y a très, 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 très peu de choses. Je pense que derrière ça, il y a une stratégie d'ensemble de ne pas prendre de décision et donc de repousser. Donc, il y a plein de façons de repousser. On peut dire qu'il faut faire du développement technologique et là, on se prend déjà 10 ans. Ou on peut dire que les données sont incertaines, il faut plus de données et on se prend encore 10 ans. Et voilà, et on a joué sur ça tout le temps, quoi. Il y a je pense qu'il y a une sorte de stratégie non dite, mais ce n'est pas de la théorie du complot. Hein, mais il y a quand même... repousser sans arrêt la prise de décision, c'est quand même quelque chose qui caractérise la façon de gérer les captures accidentelles.
Moi, je dirais même que c'est quelque chose qui caractérise la façon de gérer les problématiques liées à l'environnement en général. Le manque de courage des politiques sur ce thème est criant depuis des années. Il n'y a qu'à voir récemment le revirement du gouvernement sur le glyphosate, finalement pas tout à fait retiré du marché, ou sur les néonicotinoïdes, finalement réintroduits pour sauver la filière sucre, ou sur la poursuite d'un programme nucléaire. On ne sait pas encore, on décidera en 2023. Sur tous ces sujets, la pression politique, économique, médiatique, symbolique aussi, est très forte. Alors certes, la marche vers le développement durable ne doit laisser personne sur le bas-côté, mais ça ne doit pas servir de prétexte pour ne pas avancer. C'est sans doute pour toutes ces raisons que Vincent Ridoux est pessimiste sur l'avenir de la pêche, en particulier sur la gestion du problème des prises accidentelles, qui finalement est un peu le symbole d'une bataille pour une pêche plus sélective et plus durable. Bon, moi en revanche, je fais pas partie des pessimistes. C'est sans doute naïf, mais j'ai besoin de m'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur. Je m'accroche au discours de Franck, par exemple, cet étudiant que j'ai rencontré devant le lycée du Guilvinec, passionné par son métier, qui souhaite tout faire pour le préserver coûte que coûte et poursuivre une tradition ancestrale. Je m'accroche aussi au discours de John Castric, le pêcheur à la ligne de l'Octudie, qui entrevoit un avenir désirable pour ses enfants et qui compte sur la solidarité de tous pour maintenir une pêche durable. Je m'accroche au travail de Xavier Hamon, de l'Alliance Slow Food, qui dirige désormais l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, qui va justement former les nouvelles générations aux bonnes pratiques des métiers de l'alimentation. Je m'accroche à une partie du discours de Vincent Ridoux, de l'Observatoire Pélagis, qui se refuse à proposer aux pêcheurs de stopper net leur activité, mais propose plutôt de chercher des compromis viables, par exemple en remplaçant de temps en temps certaines pêches par d'autres. Je m'accroche aussi au mode de vie d'Hervé et Pascal, qui m'ont accueilli chez eux dans le pays Bigoudin, et qui font partie de ceux qui se posent des questions sur leur environnement et sur ce qu'il y a dans leur assiette, qui sont conscients des problèmes et qui essayent d'agir à leur niveau plutôt que de s'en accommoder. Grâce à eux tous, à leurs actions, à leurs discours, je me dis qu'il y a de l'espoir, que la pêche n'est pas condamnée à être cette activité destructrice que l'on dénonce si souvent, qu'elle peut être à la fois une activité nourricière, séculaire, vertueuse et durable. Le lendemain du procès des phoques décapités, j'ai acheté la presse dans un bureau de tabac à Concarneau. L'affaire était en une de tous les quotidiens régionaux, avec dans chaque édition plusieurs articles assez conséquents. À nouveau, l'affaire faisait grand bruit.
Et voilà.
Quelques semaines plus tard, le verdict tombe. Les deux hommes écopent de 1 500 euros d'amende chacun. Le procureur avait requis 5 000 euros. Tout ça pour ça. Des dizaines d'articles et de reportages, un battage médiatique pas possible, les assauts remontés, l'opinion publique dégoûtée, et puis plus rien. Ou presque. Parce qu'en réalité, ce fut le début de mon enquête. Et j'étais loin d'imaginer qu'en me penchant sur cette sombre histoire de phoque décapité, j'allais me retrouver à étudier tour à tour les différentes techniques de la pêche, le fonctionnement des écosystèmes, le marché du poisson, ou encore nos habitudes de consommation. Alors oui, tout ça pour ça. Il est là, dans ce documentaire, tout l'intérêt de cette histoire. Une histoire qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée. Nos choix et nos comportements décideront de la suite. Je suis Camille Maestracci et vous venez d'écouter À flot et à sang. Ce podcast a été réalisé par Anna Buy. La musique était de Mélodie Lauret et Antoine Grognard. La prise de son a été faite par Benoît Daniel et Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également mixé les épisodes. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Girard, responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Merci à Louise Emerlet et Florence Épandy pour leur écoute attentive. Merci à Pablo pour les captations sonores au Guilvinec. Merci à Maud Benakcha pour sa participation. Merci à Hervé et Pascal pour leur accueil, leur générosité et leurs conseils. Merci à Lucie de m'avoir dirigée chez eux. Merci à Ludovic, à Pierre, à Pascal et son fils, à Dominique, à Manu et à Xavier, à John et à Marc, à Natacha, à Lamia et à l'association Sea Shepherd pour l'utilisation de leurs archives. Merci à Maître Vincent, merci à Alain Bizot et à Vincent Ridoux. Merci à tous mes interlocuteurs pour leur patience et leur disponibilité. À Flot et à Sang est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.